Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe LCAs. On parlera ensuite de 4 mangas des éditions Kiun. On aura la chronique du volume 2 de My Hero Academia, la chronique du volume 2 de Monster X Monster. On aura ensuite la chronique du volume 6 de La main droite de Lucifer et la présentation de King's Game Spiral. On aura ensuite un point sur les sorties manga de la semaine, donc ça sera un petit peu long, parce que bon, du coup, les maisons d'édition font un peu leur rentrée, donc on aura tout plein de sorties. On continuera à parler culture avec Les Secrets du Saké, et on finira l'émission avec une news musicale concernant Jessie qui sera à Paris, avec l'ouverture de la billetterie prévue pour dans 2 jours, le 24 août. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Flair de Void Chords en featuring avec Lio, qui a servi de premier opening pour l'anime Arifureta Shokugyo des Sekai Saikyo, et on reviendra juste après pour parler du groupe de la semaine, le groupe LCAs.
Yeah.
Donc c'était Void Chords avec la chanson Flare en featuring avec Lio qui a servi de premier opening pour l'anime Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo. On passe maintenant à la présentation du groupe de la semaine, on va parler du groupe LC Haze ou anciennement Elmina Sound Arts. Donc c'est un cercle doujin japonais très réputé dans le milieu qui est composé de 13 membres, donc on a Haruna Ryuki, Minatsu L, Takana Mitsuhiro, Minagawa Tsukie, Rurubu, Kei, Yuna, Nayuta, Megumi Hirota, Meiko Nakamura, Shina, Mirai et Haru. Donc alternant un style pop et électro, LC Haze produit ses propres musiques et collabore parfois avec d'autres cercles de renom tels que Think Arts, Ta Music, etc. Le nom du cercle est en fait un sigle, donc le nom entier c'est Lien Ciel, de petits points, Actress Zone Evolution. Donc comme je le disais, le cercle se compose de 13 membres, donc je vais un peu parler plus en détail de ces 13 membres. On a tout d'abord Haruna Ryuki qui est né le 15 avril 1980 et qui s'occupe d'arranger les musiques. C'est aussi et surtout le leader du cercle. Minatsu L est l'associé d'Haruna, c'est en le rejoignant que LC Haze devient ce qu'il est maintenant. Il s'occupe des compositions, notamment au piano, et c'est aussi le leader d'un autre cercle qui s'appelle Sylphide. Takana Mitsuhiro est l'ingénieur son du cercle, mais surtout celui qui s'occupe de la publicité et de tout le côté affaires du cercle. Minagawa Tsukie est la parolière du cercle, née un 24 décembre à Fukushima, elle vit maintenant à Tokyo. Rurubu s'occupe quant à lui d'écrire également les paroles des chansons, il supervise entre autres les activités du cercle dans le Kanto. Kei est la chanteuse principale du cercle, elle représente le côté LC Haze blanc du cercle, vocalement parlant. Yuna est elle aussi chanteuse pour le cercle, mais elle chante des chansons plus sombres et douloureuses, ce qui fait d'elle la représentante LC Haze noire du cercle. Le cercle compte également 5 autres chanteuses, donc on a Nayuta qui chante de temps en temps pour le cercle, Megumi Hirota qui est guest chanteuse et spécialisée dans les chansons plutôt mignonnes, elle est également au site web et apprécie l'artiste Olivia. Elle est née un 13 février. On compte aussi Meiko Nakamura, chanteuse qui apprécie Kotoko de Hive Sound. Son style est plutôt pour des chansons tristes, mais rythmées. On a Shina qui est une guest chanteuse, Mirai qui est une chanteuse faisant notamment les chœurs et qui donne un côté moe aux chansons. Elle s'occupe aussi des parties parlées des chansons. Et on a enfin Haru qui était chanteuse pour le cercle Sylphide au départ et qui est maintenant également chanteuse pour LC Haze. Elle prête sa voix pour des chansons tristes où elle alterne entre l'aigu et le grave avec Maestro. Donc côté discographie, le cercle a participé à une OST, l'OST Baldr Masterpiece Chronicle Complete Vocal Collection and Soundtrack Complete Archives, qui est sorti le 22 décembre 2017. Et ils ont également participé à 29 doujin, donc je ne vais pas vous faire toute la liste. On a notamment Yubikiri en 2008, Follow en 2009, Toho Little Prayer en 2010, LC Violi en 2011, Fromage en 2012 et Gundam G-Tribute Revol qui est sorti en 2015. Voilà, donc on va pouvoir s'écouter tout de suite deux chansons de LC Haze. On commence avec Haru no Akatsuki, Mesameshi Omoi et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de My Hero Academia.
Haruka kanatae.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était Elsie Hayes avec la chanson Akai Kage. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de My Hero Academia. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, comédie, vie scolaire, surnaturelle qui a été écrit par Horikoshi Kohei, traduit par David Lequeré et prépublié dans le Shukan Shonen Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 35 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Kiun avec pour le moment 33 tomes. Ce volume 2 est sorti le 14 avril 2016 au prix de 6,60€. Au résumé de ce tome, pris pour cible par un super vilain, Izuku est secouru de main de maître par son idole en personne. Il découvre alors qu'All Might, très diminué par une ancienne blessure, ne peut plus utiliser son alter que 3 heures par jour. Aussi, lorsque son camarade Katsuki est attaqué quelques instants plus tard, son sang ne fait qu'un tour. Malgré sa terreur, il se précipite à la rescousse du jeune garçon. Témoin de cet acte de bravoure, All Might décide de faire d'Izuku son successeur. Après un entraînement drastique, notre apprenti héros réussit à intégrer le prestigieux lycée UA, mais il y a un hic, impossible pour lui de maîtriser le One for All, le pouvoir hérité d'All Might. Donc ça y est, Izuku a enfin réussi à intégrer UA, la légendaire école de super-héros. Son rêve est en passe de se réaliser, mais il va devoir faire énormément d'efforts, ne serait-ce que pour maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Pour cela, il va bénéficier de l'aide de son idole, le puissant All Might, mais également de l'aide de ses nouveaux camarades. Mais au détour d'un cours un peu particulier, sous forme d'entraînement au combat, la rivalité entre lui et Katsuki va se trouver exacerbée. Après tout ça, une incroyable menace pèse sur le lycée, et il est bien possible que notre héros n'ait pas le temps de terminer sa formation. Donc comme tout lycée qui se respecte, Yuei dispense de nombreux cours, et c'est dans ce quotidien un peu particulier qu'on va suivre Izuku, mais également ses camarades. Et déjà, un cap était franchi à la fin du premier opus, avec nos jeunes élèves qui revêtaient leurs costumes, l'auteur marquant ainsi le changement de statut. Ils ne sont plus uniquement des élèves, ils sont aussi et surtout des héros en devenir, et ils doivent donc se comporter comme tels. Outre la présentation des costumes, le tome s'ouvre sur une séquence d'entraînement opposant les élèves entre eux. C'est l'occasion de présenter un peu plus certains des camarades de classe d'Izuku qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, et on devine déjà le potentiel de certains. Mais c'est surtout l'occasion pour l'auteur d'insister fortement sur la rivalité grandissante opposant notre héros à celui qui s'acharne sur lui depuis des années, Katsuki. Ce n'est pas très original dans un shonen de retrouver une rivalité entre deux protagonistes, c'est même pour ainsi dire la norme, mais ici l'auteur va plus loin en nous montrant un Katsuki particulièrement borderline, se laissant envahir par la colère, la rage même, et mettant la vie des autres élèves en danger au point d'être à deux doigts de faire intervenir All Might pour l'arrêter. À ce moment-là, on repense alors aux commentaires de Kishimoto disant que My Hero Academia est le successeur de Naruto, et on imagine déjà Katsuki passer du côté obscur, se laisser envahir par sa rage et son agressivité, qu'il a bien du mal à cacher pour devenir à nouveau Sasuke, donc wait and see. Suite à un chapitre plus léger et totalement délirant, pour élire les délégués de classe, on assiste alors à un troisième cours qui s'annonce lui aussi riche en surprises. Et là, l'auteur nous prend totalement à contre-pied, en nous faisant déjà rentrer dans le vif du sujet, les choses sérieuses commençant avec l'apparition de super-vilains venus éliminer le symbole de la paix, à savoir All Might. Vu la tournure que prenait le titre, on pensait qu'on allait suivre la formation des jeunes héros encore quelques temps. On ne s'attendait pas forcément à entamer des choses aussi sérieuses, voire graves, aussitôt. Et quelque part, c'est là le coup de génie de l'auteur qui nous bouscule un peu. Dans cette phase, les élèves sont dispersés, permettant de poursuivre la présentation de certains d'entre eux, mais aussi et surtout de leurs pouvoirs. Les personnalités commencent à émerger et on devine tout le potentiel de certains, voire carrément l'importance qu'ils prendront à l'avenir dans la série. Si, sur la forme, le fait de disperser les personnages et de nous proposer plusieurs lieux d'affrontement n'a rien d'original, sur le fond, cela permet à l'auteur de mettre en avant ses personnages jusque-là en retrait, et ainsi de gagner du temps sur la présentation. Et quoi qu'on en dise, original ou pas, cela reste toujours très efficace lorsque c'est bien mené, ce qui est le cas ici. En comparaison du premier tome, le ton change déjà radicalement, et très vite on perd ce ton léger et amusant pour entamer quelque chose de grave, car même si ce n'est pas encore le cas, on s'attend très tôt au sacrifice de certains personnages, afin de planter la trame et le ton du titre. Le trait de l'auteur fait encore des petites merveilles, outre sa mise en scène diablement efficace et dynamique, il parvient à donner vie à des personnages au design remarquable, que ce soit les jeunes apprentis dans leurs nouveaux costumes ou les super-vilains débarquant en fin de tome, qu'il parvient à rendre véritablement inquiétant. Donc, chapeau bas. Avec ce second tome, l'introduction est bel et bien terminée et on est immédiatement entré dans le vif du sujet. Le ton évolue et la série ne s'en trouve qu'encore plus stimulante, On comprend donc pourquoi ce titre a remporté un tel succès au Japon, et pourquoi il continue d'ailleurs d'avoir autant de succès même ici en France. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite la chanson Merry Go Round de Man With a Mission, qui est servie de deuxième opening pour la saison 5 de l'anime Boku no Hero Academia. Je rappelle également que vous pouvez retrouver la série My Hero Academia avec pendant 33 tomes aux éditions Kiun. Donc on va s'écouter cette chanson et on reviendra juste après pour parler du volume 2 de Monster X Monster.
Fate can be hard-hearted. さえでもない夢を見て誰よりも傷ついた 関係がないことと言って 逃げ出した神の見物 I couldn't be your shell そんな風にはできない Holding my strength and weakness さあこっからまだ始める I'm standing by myself Face the world to grieve no more The carousel builds up Down. Your existence sparking more than the one else. Merry go round, merry go round.
C'était Man With A Mission avec la chanson Merry Go Round qui a servi de deuxième opening pour la saison 5 de l'anime Boku no Hero Academia. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Monster X Monster. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action, aventure, drame, fantastique qui a été écrit par Tobita Nikichi et prépublié dans les Shonen Sunday Super et Manga One. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 3 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Kiun avec également 3 tomes. Ce volume 2 est sorti le 25 mai 2017 au prix de 7,65€. Le résumé de ce tome, notre héros s'est enfin décidé à devenir Bringer, mais ses motivations sont tout sauf louables. Son unique préoccupation, séduire les filles. Alors qu'il déambule dans les rues en considérant les avantages de sa nouvelle carrière, il tombe nez à nez avec un individu cagoulé qui n'a pas l'air de lui vouloir que du bien. Avant que le jeune homme ait le temps de réagir, l'inconnu lui passe son épée au travers du corps et invoque une bête gigantesque qui commence à ravager la ville. Notre apprenti Bringer va-t-il rendre l'âme sans même avoir combattu le moindre monstre ? Donc après 29 années passées à glander et à susciter la colère et l'inquiétude de sa mère, notre bon Arien de héros s'est enfin décidé à entamer la voie de Bringer. Mais aura-t-il seulement l'occasion de se lancer normalement dans cette voie ? En effet, alors qu'il réfléchit à sa nouvelle situation, le jeune homme est soudainement attaqué en pleine rue par un homme cagoulé qui le transperce de son épée. Tandis qu'il s'évanouit, cet acte fait apparaître un gigantesque monstre prêt à ravager la ville. À son réveil, notre héros ne peut que constater la chose sans la comprendre. La cité d'Aslan est en proie au chaos, détruite, jonchée de morts. L'heure est peut-être venue pour notre bon Arien de s'inquiéter plus que jamais pour sa mère et de prendre certaines décisions. Donc après quelques chapitres basés sur un schéma très linéaire, voire répétitif mais pas déplaisant, le tome 1 de Monster X X-Monster s'achevait sur une scène prometteuse, tant elle semblait sur le point de lancer réellement cette courte série de 3 tomes. Et ça ne manque pas. Tout d'abord, la situation critique de la ville d'Aslan où notre héros a passé toute sa vie à glander, le contraint forcément à remettre en cause la vie pépère qu'il menait jusqu'à présent, grâce à sa mère trop indulgente. Mais c'est surtout cette maman qui risque fort de faire sortir le jeune homme de sa flemme habituelle, dans une atmosphère forcément chaotique, et plutôt rapidement afin d'éviter le pathos, Nikitfi Tobita nous livre un drame qui a de l'impact sur notre héros, et qui lui fait enfin prendre conscience de toute la bonté que sa mère n'a cessé de lui témoigner. Car derrière ses colères, ses critiques, ses plans fumeux pour tenter de pousser le jeune homme vers le travail, il y avait surtout l'inquiétude d'une maman pour son fiston adoré. Les événements contraignent donc notre héros à s'engager réellement dans la voie qu'il a plus ou moins choisie, mais ça ne s'annonce pas facile. Heureusement, il va pouvoir compter sur l'aide de 2 personnes fortement intriguées par le pouvoir qu'il semble receler, l'exquise Pepelo et le maître Sunbolt, qui feront leur possible pour le mettre sur la bonne voie et l'aider à progresser. Mais quand on a eu des mauvaises habitudes pendant tant d'années, on ne change pas si facilement. Alors que les entraînements s'enchaînent rapidement et évitent donc d'inutiles rallonges, on s'amuse bien en observant les motivations à nouveau pas très glorieuses de notre crétin de héros, ainsi que les plans fumeux que Sunbolt propose pour justement le motiver. La belle Pepelo risquerait d'en faire les frais si elle ne possédait pas un caractère bien trempé. Tout ceci nous prépare plutôt bien à la suite, dans la mesure où 2 éléments se voient doucement mis en avant, l'énigme du pouvoir que notre héros renferme et sa crainte de toucher les monstres, phobie qu'il lui faudra à tout prix guérir pour avancer. Ces 2 éléments sont au cœur de la dernière partie du volume, suite à un événement obligeant notre héros à s'y confronter. Quel est son pouvoir ? A-t-il un lien avec sa phobie ? Quels événements passés ont conditionné le jeune homme dans sa peur, dans sa façon de se couper du monde, et dans toutes ces années passées à glander ? Tobita nous offre alors un flashback qui, à nouveau, évite toute rallonge, ce qui ne l'empêche pas de dévoiler tout ce qu'il faut pour nous faire comprendre son personnage principal. Surtout, la nature même du pouvoir du jeune homme et sa façon de l'utiliser laissent envisager de toutes nouvelles perspectives, où les monstres ne sont pas tous des êtres terrifiants à abattre et où les hommes n'apparaissent pas forcément tous bons. Donc comme on pouvait l'espérer, Monster X Monster décolle un peu plus avec ce 2e volume suffisamment bien mené. Les choses ne traînent pas, les évolutions sont là, l'humour reste bien présent, mais côtoie plus le drame et bien sûr les designs monstrueux proposés par le dessinateur en imposent encore grâce à leur densité. Voilà, donc je rappelle que la série Monster X Monster, terminée en 3 tomes, est à retrouver aux éditions Kiun. En attendant, on va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Mamaredo Purin Sesu de White Lips, et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. あの日暮れた頃 Donc c'était White Lips avec la chanson Mamaledo Pulin Sesu. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 24 août avec chez Pika le volume 4 de A Couple of Cuckoos, le volume 3 de Black Box, le volume 9 de Blue Lock, le volume 3 de Blue World qui sera le dernier tome de la série, le volume 5 de Four Nights of the Apocalypse, le volume 2 de J'irai te tuer dans tes rêves, le volume 1 de la réédition de Journal de ma solitude, le volume 1 de Nekoga Hara, le volume 2 de Rakai Blues, le volume 9 de Snow White and Alice, le volume 11 de So I'm a Spider, So What, et le volume 2 de Violence Action. Aux éditions Glénat, on aura la sortie du volume 7 de Artiste, un chef d'exception, le volume 22 de Babysitter, le volume 26 de Inomaru Sumo, le volume 21 des Gouttes de Dieu Mariage, le volume 10 de Mao, le volume 2 de l'édition Deluxe de Néon Genesis Evangelion, et le volume 6 de Parasite Reversi. Aux éditions Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 7 de la Perfect Edition de Beck, le volume 6 de Elfenlied qui sera le dernier tome de la série, le volume 1 du Bleu du Ciel dans ses yeux, le volume 2 du Secret des Écailles Bleues qui sera le dernier tome de la série, et le volume 18 de Tanya The Evil. Aux éditions Anna, on aura la sortie du volume 1 de Bitter Drop, le volume 1 de L'Amour taille XXL, les volumes 1 et 2 des Larmes du Ciel, donc le tome 2 sera le dernier tome de cette série. On aura également le volume 1 de Mood Indigo, le volume 1 de Renaissance, le volume 1 de Sugar Dog Life, le volume 1 de The Secret of Me and My Boss 2 et le volume 1 de À la recherche de l'amour. Aux éditions Soleil, on aura la sortie du volume 18 de Coffee and Vanilla, le volume 10 de Come to Me Wedding le volume 3 du coup de I Came for Learning Love, qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Nobi Nobi, on aura la sortie du volume 10 de Flying Witch, le volume 1 de Gandhi, le volume 1 de Léonard de Vinci, le volume 14 de Princesse Détective, et le volume 1 de la nouvelle édition de Tokyo Mew Mew à la mode. Aux éditions Camondo Books, on aura la sortie du volume 1 de L'Homme qui démaquille et le volume 1 de Return of the Demonic Master. Aux éditions Casé, on aura la sortie du volume 10 de Machel, le volume 15 de Queen's Quality, le volume 1 de Recueil d'histoires courtes et le volume 26 de Twin Star Exorcist. Et enfin, aux éditions Panini, on aura la sortie du volume 2 de la Perfect Edition de Planète. Ce n'est pas encore fini pour les sorties de la semaine, on passe maintenant à jeudi 25 août. Donc aux éditions IMO, on aura la sortie du volume 3 de la nouvelle édition de Bambi et le volume 1 de À la découverte du Japon, Asa, une Suédoise au pays du soleil levant. Aux éditions Omake Books, on aura la sortie du volume 4 de Bloody Cruise et le volume 2 de Shark Panic, qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Kiun, on aura la sortie du volume 10 de City Hunter Rebirth, le volume 2 de Clevatess, le volume 9 de Isabella Bird, Femme Exploratrice, le volume 3 de Ranking of Kings, le volume 1 de Slice of Life et le volume 13 de Valkyrie Apocalypse. Aux éditions Le Lézard Noir, on aura la sortie du volume 3 de Double, le volume 1 de La Grande Traversée, le volume 4 de Rakugo à la vie, à la mort, le volume 1 de Moi Tsushima et le volume 8 de Tokyo Tarareba Girls. Aux éditions Manabooks, on aura la sortie du volume 23 de Dragon Quest, Les Héritiers de l'Emblème. Aux éditions Komiku, le volume 2 de Dresseur dans un autre monde, le volume 1 du Destin de Claire, le volume 17 de The Unsigned Magus Bride et le volume 8 de The Dungeon of Black Company. Et donc pour finir les sorties de jeudi, on aura deux sorties aux éditions Akata avec le volume 1 de Mon mari dort dans le congélateur et le volume 4 de Sasaki et Miyano. Les dernières sorties, donc ça sera pour vendredi 26 août, avec aux éditions Taifu Comics le volume 2 de A Tropical Fish Yearns for Snow et le volume 7 de Katsu Fugetsu Beauties of Nature. Aux éditions Kana, on aura la sortie du volume 14 de Boruto Naruto Next Generations, le volume 6 de Bucket List of the Dead, le volume 10 de Cigarette and Cherry, le volume 6 de Comme les Autres, le volume 74 de Gintama, le volume 9 de Mission Yosakura Family. On aura le volume 8 de Sexy Close Play Doll qui sortira en édition normale et en édition collector avec un artbook. On aura également le volume 5 de Togen Enki, La Légende du Sang Maudit, le volume 16 de Witchcraft Works et le volume 56 de Zetai Karen Children. Aux éditions Isan Manga, on aura la sortie du volume 2 de Captain Ken qui sera le dernier tome de la série et le volume 3 de W3 qui sera également le dernier tome de la série. Aux éditions Ototo, on aura la sortie du volume 6 de Danmachi Familia Chronicle épisode Ryu, qui sera le dernier tome de la série, le volume 9 de Danmachi Sword Oratoria, le volume 4 de Goodbye Dragon Life, et le volume 3 de ReZero Chronicles, la balade amoureuse de la lame démoniaque. Aux éditions Noeve Graphs, on aura la sortie du volume 1 de La Maison des Maiko, et enfin aux éditions Shiba Edition, on aura la sortie du volume 1 de Zignies. Zignies, ouais, je ne sais pas trop comment prononcer ça, mais voilà, Zignies. C'est ce qui termine donc les sorties manga de la semaine. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Million Dollar Dreamer de Wonderful Opportunity. Et on reviendra juste après pour parler culture avec les secrets du saké. 3, 2, 1, go! We'll be right back. Donc c'était Million Dollar Dreamer de Wonderful Opportunity. On passe maintenant à la partie culture. On va continuer à parler des secrets du saké avec le livre de Simeon Mollard qui est paru aux éditions Iseki Nicho. Donc on va parler de quand consommer le saké et avec quoi. Donc le vin se marie avec la nourriture, mais le saké peut la sublimer. Donc c'est une phrase de Umetsu-san, un maître brasseur. Le saké est un alcool caméléon. Il s'adapte très facilement aux plats qui l'accompagnent et semble s'effacer devant ceux-ci pour en révéler les saveurs. A l'inverse, il permet parfois de contrebalancer des saveurs trop présentes. Donc chaque saké a ses propres caractéristiques, rendant chaque accord avec la nourriture unique. S'il s'accorde parfaitement à la nourriture japonaise, il ne faut pas le restreindre à celle-ci. Contrairement aux idées reçues, on préfère éviter des plats à base de riz, déjà présents dans le saké, donc tant pis pour les sushis. Cela laisse donc un nombre de possibilités infinies, pour l'apéritif, le repas, le dessert, etc. Les accords mets-sakés sont une aventure personnelle. Afin de faire vos propres découvertes, quelques pistes peuvent vous donner des clés de réussite. Il s'agit dans un premier temps de déterminer si vous souhaitez que le saké mette en valeur les caractéristiques les plus plaisantes des aliments, ou au contraire équilibre un plat grâce à une confrontation bienvenue. Dans le premier cas, asperges, amandes, poissons, la dorade notamment, truffes, font merveille avec des sakés aromatiques et légers, ces derniers sont également souvent associés aux fruits de mer. Pourtant, les sakés de caractère au profil moins aromatique et plus sec s'associent plus facilement à la nourriture. Pour les accompagner, recherchez des ingrédients comprenant beaucoup d'acides glutamiques comme les champignons ou les tomates. Les sakés sont également très souvent excellents avec un fromage. Un vieux comté qui comprend du sel cristallisé permettra souvent d'aboutir à un accord exceptionnel. Pour le dessert, un kochu semble tout indiqué. Son caractère torréfié accompagnera à merveille les desserts crémeux, tiramisu et autres fondants au chocolat. Voilà, donc on continuera à parler de quand et avec quoi consommer le saké la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter une autre chanson, c'est Joker de X Japan, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 6 de La main droite de Lucifer. Ready? We'll be right back. donc, c'était X Japan avec la chanson Joker. On passe maintenant à la chronique du volume 6 de La main droite de Lucifer. Donc, je rappelle que c'est un seinen de genre action, drame, psychologique, thriller qui a été écrit par Serizawa Naoki et prépublié dans le Morning. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 6 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Kiun avec également 6 tomes. Ce volume 6 est sorti le 12 juin 2014 au prix de 7,65€. Donc le résumé de ce tome, peu après l'arrivée de Ryusei à la clinique, une journaliste décide d'enquêter sur le mystérieux docteur Lucifer. Au cours de ses investigations, elle se retrouve mêlée à l'enlèvement du docteur Wiseman, un ancien collègue de Yu Katsumi qui a travaillé avec lui en Afrique. Son intervention permet à la fiancée de Yu, qui le croyait mort, de le retrouver et de renouer le contact en s'installant au Japon. De son côté, Eriko reste obsédée par son passé, sans parvenir à se rappeler le moindre souvenir de son ancienne vie. Mais celle-ci va brusquement refaire surface de la pire manière qui soit. Très bonne surprise, ce titre tire sa révérence après seulement 6 volumes de qualité, nous ayant proposé des histoires intéressantes avec des personnages qui l'étaient tout autant. On laisse de côté la journaliste menant l'enquête sur le mystérieux docteur Lucifer, une histoire qui n'a pas apporté grand-chose à la série, pour revenir sur la jolie Eriko qui découvre son passé trouble. Cette dernière, amnésique, cherche à se rappeler son ancienne vie, mais celle-ci la ramène à une vie qu'elle tentait de fuir. Elle était liée à une organisation secrète mafieuse, l'Hydre, dans laquelle elle participait à des paris médicaux, détruisant blessés volontairement des innocents, et les médecins devaient leur sauver la vie dans des conditions difficiles devant une assemblée de parieurs, misant sur la survie ou non des patients. Cette histoire, relativement glauque, apparaît un peu tirée par les cheveux, et comme on pouvait s'y attendre, Yu va s'en mêler pour sauver son ami, et pour cela il va devoir s'impliquer. Le souci de cette histoire, ce ne sont ni les personnages ni les péripéties qui au contraire contribuent à renforcer l'intérêt du lecteur. Le véritable et seul problème vient de la narration. À plusieurs reprises, on a l'impression qu'il manque des transitions. Les situations s'enchaînent souvent de manière maladroite et confuse. Donc si on comprend sans problème ce qui se passe, cela n'excuse en rien ces enchaînements douteux. On assiste donc pour la dernière partie de cette série à une histoire sombre et violente, où le destin des protagonistes est en jeu, ce qui augmente la tension. Tout va se jouer de sorte à réunir la fine équipe qui s'était rassemblée au fil des tomes, avec une conclusion qui réglera tout d'un coup. Désormais la vie peut reprendre son cours, tous ensemble vont continuer à œuvrer pour le bien des plus démunis. La dernière page nous offre d'ailleurs un plan symbolique résumant toute la série. Sans être un chef-d'œuvre, cette courte série aura su nous séduire et nous aura fait vivre de bons moments. On aurait souhaité qu'elle ne se termine pas, mais au moins le titre aura su s'arrêter au meilleur de sa forme. Voilà, donc je rappelle que la série La main droite de Lucifer est à retrouver complète en 6 tomes aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Tokyo de Xavi BNC, en featuring avec Aze, Titai, Kulere, DJ Depass et Nadeko. Et on reviendra juste après pour la présentation du manga King's Game Spiral.
Thank you. We'll be right back.
Donc c'était Xavi BCN pardon, avec la chanson Tokyo en featuring avec AC, Titai, Kuleré, DJ Despace et Nadeko. On passe maintenant à la présentation du manga King's Game Spiral du titre original Osama Game Rinjo. Donc c'est un seinen de genre drame, mystère, vie scolaire, surnaturel qui a été écrit par Kanazawa Nobuaki, dessiné par Koriyama Renji et prépublié dans le Everystar. La version japonaise est parue en 2014 aux éditions Futabasha avec un total de 4 volumes qui terminent la série, et la version française est parue le 9 juin 2016 aux éditions Kiun avec également 4 tomes. Vous pourrez retrouver King's Game Spiral dans le commerce au prix de 7,65€. L'âge conseillé pour le lire est de 16 ans et plus, la série est pour public averti à cause de la violence modérée, et il n'existe pas d'adaptation en anime. Il existe un roman à l'origine de cette adaptation en manga, King's Game volume 4 Spiral, qui est disponible à 15€ aux éditions Lumen. Un préquel et une suite en manga, donc on a King's Game et King's Game Extreme, paru en 5 tomes aux éditions Kiun, ainsi qu'un animé qui est basé sur la série de romans Osama Game The Animation, avec 12 épisodes de 24 minutes qui ont été diffusés du 5 octobre au 21 décembre 2017 et qui sont disponibles en streaming sur Wakanim si ça vous intéresse. Le roi n'a pas fini de nous horrifier, mais une personne ne cesse de le défier et refuse de mourir, Natsuko Honda. Donc le résumé de cette série, alors que Nobuaki Kanazawa et Natsuko Honda se débattent pour échapper à la malédiction du jeu du roi, loin de là, deux collégiennes en mal de sensations fortes s'introduisent de nuit dans une école à l'abandon. Sur le mur, dans les cahiers, elles trouvent des messages de haine et de colère. L'un d'eux les intrigue particulièrement, qui est le roi. Un an plus tôt, c'est dans ce lycée que Natsuko a fait sa première expérience du cruel jeu de survie. À l'époque, elle ne pensait qu'à une chose, sauver ses amis et surtout Kentaro, le garçon qu'elle aimait. Mais les bonnes intentions ne font parfois pas le poids face à la cruauté du roi. Jusqu'où iront Natsuko et Kentaro pour survivre. Voilà, donc je rappelle que King's Game Spiral est à retrouver en 4 tomes d'une série donc terminée avec ces 4 tomes aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite la chanson Feed the Fire de Cold Rain qui a servi de premier opening pour l'animé Osama Game The Animation. Et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
You
Donc c'était Cold Rain avec la chanson Feed the Fire qui a servi de premier opening pour l'anime Osama Games The Animation. On passe maintenant, pour finir cette émission, à la news musicale. Donc après son passage au Mike Festival et annoncé le mois dernier, la rappeuse Jessie va se produire au Casino de Paris le 12 octobre prochain avec l'aide de Retro Productions. La billetterie ouvrira dans 2 jours, le 24 août à midi, sur le site du Casino de Paris. Donc si ça vous intéresse, voici les tarifs, donc sans les frais de transaction, donc prévoyez que ça soit un petit peu plus cher. On a les Very VIP avec la première entrée anticipée à 235€, avec un accès aux répétitions de l'artiste, une photo en groupe de 8, un poster dédicacé, un bracelet, des goodies et des accessoires. Pour les VIP, deuxième entrée anticipée, c'est à 185€, avec une photo en groupe de 15, un poster dédicacé, un bracelet, des goodies et des accessoires. Et on a ensuite donc les trois tarifs normaux, si je puis dire. Donc on a le tarif Gold avec la troisième entrée anticipée à 110€, avec des places assises et debout, des goodies et des accessoires. On a les places générales à 79€ et les places standards à 49€. Donc le concert débutera à 19h et si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aller consulter la page événement Facebook de ce concert ainsi que l'Instagram du tourneur. Pour les autres dates européennes, donc Jessie sera en concert le 8 octobre 2022 au Verti Music Hall à Berlin en Allemagne, le 10 octobre au Troxy à Londres au Royaume-Uni, le 12 octobre donc au Casino de Paris à Paris en France, le 16 octobre au Turbinen Hall à Oberhausen en Allemagne et elle terminera donc sa tournée en Europe le 19 octobre au Razzmatazz à Barcelone en Espagne. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore Jessie, vous allez pouvoir la découvrir avec cette chanson qui va donc terminer l'émission, c'est White Type of X. Donc on va s'écouter ça tout de suite. Je rappelle que vous pouvez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt.
Thanks to my ex, I'm on to the next. Ego, yo. 여기에 미친 X. I'm a different type of beast. I'm a different type of beast, beast, beast. I'm a different type of beast, but it's so.